Salut, il est 9h et vous êtes bien calé sur le 88.8. Pour 3 jours, la grenouille part en vadrouille et pose ses micros dans le quartier de Malpassé. On aurait pu y aller en métro, ligne 1, direction La Rose, mais on a pris la caravane. Elle est jaune, c'est notre studio jusqu'à samedi. On la gare rue Marathon, boulevard Bouge, devant les cèdres, les cyprès ou au pied de l'école des Oliviers. Pour 3 jours, Radio Grenouille devient Radio Malpassé et ouvre ses micros au son du quartier, aux mots des habitants. Et ce matin, pour aller à Malpassé, nous allons faire quelques petits détours. Pour parler de ce quartier en rénovation urbaine, nous parlerons du langage et des mots de la rénovation, nous ferons un crochet par le plan DAO et tout de suite, un retour sur l'histoire des quartiers en lisière, le Grand Saint-Barthélemy, ce qui a été la ZUP numéro 1 dans les années 60, première zone à urbaniser en priorité à Marseille. C'est de l'autre côté de la rocade, face à Malpassé. ZUP numéro 1, une création de Lucien Bertolina et Françoise Bresse.
Qu'on l'écoute la première fois de notre vie et qu'on le réécoute là, ça fait plus quelque chose de drôle.
C'était des grandes campagnes qui étaient un peu les bastides marseillaises, qui étaient habitées par la bourgeoisie marseillaise, et une autre partie dessous qui était uniquement des maraîchers.
Ouais, mais ça, c'est du film, ça.
On peut imiter le cri du lion.
À l'origine, il y avait des jardins ouvriers, en 1940, là, des jardins ouvriers avec des cabanes.
Après, ça reste estrait.
T'es obligé, c'est le film.
Et avec l'arrivée des maghrébins d'Afrique du Nord, ça s'est passé dans les années 50, ces cabanes se sont transformées en logements et en bidonville.
Il peut couler le bateau.
Voir un peu, pour te voir. Te voir un peu comme, qu'est-ce que ça donne.
Moi, je suis arrivé en France, je devais avoir peut-être 2 ans. Mon père, au début, dans son pays, il a dû travailler la terre et tout. Après, il est venu ici chercher la richesse. Bon, il s'est retrouvé à travailler de la terre, peut-être, mais de la terre goudronnée.
Quand on a commencé les travaux de la campagne Picon, ça, c'est au début des années 60, très vite, on a tracé la rocade. Donc cette rocade a été une zone d'exclusion et sur cette zone d'exclusion s'est installé le bidonville.
Ça ressemblait un petit peu aux favelas du Brésil. Quand je pense au temps où nous habitions à Bidonville, Saint-Barthélemy, il y a 2 images, l'eau et le feu. Il y avait tout plein de gobelets, de bassines par terre, dans la maison. Parce que bon, les toits étaient en bois, en planche de bois, et quand il pleuvait, il y avait un petit peu d'inondation.
C'est beau ça.
Le feu, pourquoi? Parce que dans notre maison, il y avait toujours dans un coin de la maison 2 valises qui étaient prêtes. Parce que quand il y avait le feu, ça prenait tellement vite que les gens ils prenaient leur peu de choses précieuses qu'ils avaient et ils se tiraient avec les enfants, quoi.
Il y avait quand même 4000 habitants dans ces bidonvilles. Le bidonville Picon qui a été très très important. Puis le bidonville Julien qui s'est appelé Fond Vert aussi, donc Julien Fond Vert. Et le bidonville Benoît.
La ZUP s'est construite sur ces terrains.
Cette ZUP devait répondre à 3 objectifs. résorber les bidonvilles.
Les rues.
Reloger les gens qui avaient été expulsés ou expropriés dans les terrains qu'on avait pris pour construire les voies express, là, les pénétrantes. Là.
L'indépendance.
Et puis l'accueil de rapatriés quand même. Il y a eu 130 000 rapatriés qui sont venus d'Algérie. Et il faut signaler qu'il y en a 80 000 qui sont restés à Marseille.
L'attentat commis au ministère des Affaires étrangères est l'une des plus dramatiques illustrations de ce terrorisme qui horrifie maintenant tous les Français. Deux morts, plusieurs blessés graves, des dégâts importants.
Les dirigeants rebelles se disent être le gouvernement de la République algérienne, laquelle existera un jour, mais n'a encore jamais existé.
En 1960, c'est Picon, la cité Picon, qui est sortie avec 430 logements.
Et Canot font un mélange hardi.
Allez plus loin. Nous procéderons alors vraiment à la politique de la terre brûlée.
Puis en 61, c'est la Busserine avec la SIC qui a construit la 310 logements.
Aujourd'hui, le cessez-le-feu est proclamé.
L'Ogirem 288 en 62. Fond vert est venu un peu après avec 649 logements et 65.
Le président Marx se revendique immédiatement.
C'est au Vietnam que s'en joue actuellement notre sang, notre possibilité de ne pas être ni exploité ni aliéné.
Il y a eu ensuite Saint-Barthélemy 3 en 1968.
Je continue. L'événement de Nanterre, ce qu'il y a d'original dans l'événement de Nanterre, c'est que la contestation n'est pas une contestation de l'institution en sa forme, la prise de conscience par la
constitution. Puis les Iris et les Flamands en 70-71. Le Mail est venu en 72. Et la Benoist, alors ces petits logements là qui sont là, 128 logements qui sont menés en 73, ce qui faisait à peu près entre 18 et 20 000 personnes.
Le vent, le ciel, la fumée,
le vent,
les jardins, les oiseaux,
le ciel,
les champs, les arbres,
la fumée.
Le coût moyen viabilisé dans cette ZUP a été de 100 francs à l'époque. Et le coût moyen national était de 35 francs. Les promoteurs privés ne se sont pas présents. Et pour amortir, pour équilibrer financièrement, on a un peu surpeuplé. À partir de cette surdensité, les équipements n'ont pas suivi. Pas de bus. Très peu de commerce, pas de moyens de communication avec la ville, pas de téléphone. C'était une cité isolée et pendant des années, on a eu une action de récupération. Quand on aurait pu faire un travail qui allait faciliter ces rapports de coopération pour des choses plus intéressantes, on a fait un travail pour essayer de récupérer des équipements qui auraient dû être mis en place dès le départ.
Nous savons que cette grandeur et que cet épanouissement ne passent pas par ces ghettos sordides, l'abominable promiscuité, la crasse, la misère, le pourrissement que nous voyons s'établir tous les jours dans les grandes villes de France.
Plus grave.
Ces grands ensembles, ces grands immeubles, chaque pièce nous semblait grand.
On est arrivé dans un autre monde, on dirait. Ça appartenait à Marseille, mais on dirait que c'était pas à Marseille.
C'était des logements qui étaient neufs, fonctionnel.
Bonjour.
Les gens étaient très, très heureux de leur logement.
Aucune volonté de bonheur.
Alors, ce qu'il a quand même, c'est que de suite s'est posé le problème de la promiscuité.
Le bonheur pour moi, ne joue pas un rôle très considérable.
On a dû compter, je sais pas, une vingtaine d'ethnies différentes.
On ne dit pas non plus Hallyday, simplement Hallyday.
Mais c'est vrai aussi que quand il y a des déplacements de population comme ça, il y a toujours des gens qui se connaissaient auparavant, qui se retrouvent plus ou moins ensemble.
Allô, allô.
Quelque part, essayent aussi de recréer ce qu'ils avaient vécu auparavant.
Ah, oh, je ne sais pas si je suis...
Ces balcons qu'on voit un petit peu chargés, etc., etc., un peu dans le désordre, etc., c'est aussi l'héritage d'un passé de bidonville.
Vous prenez Français pour des imbéciles.
Il n'y a pas eu une préparation à l'accès à ce type d'urbanisation, etc. Qu'est-ce qu'on a fait pour que ce soit différent pour ces gens-là?
Monsieur le Président, quand vous alliez dîner chez les Français...
Ces gens sont arrivés, on leur a demandé de faire abstraction totale d'un passé, abstraction totale d'un vécu.
La fumée, le jardin.
Et écoutez la chanson de Bataline qui raconte avoir vu sur la lune cette femme tordre leurs cheveux vers le bas jusqu'à leurs pieds.
Les activités qui venaient en priorité de la part de nous qui étions les professionnels de l'action sociale, c'était des activités, donc une part pour les enfants et d'autre part pour les femmes.
Ça n'existe pas. Surveille.
La fin de la scolarité était fixée à 14 ans à cette époque-là. C'était une fête pour le jeune. À n'importe quel moment de l'année, sa scolarité ne terminait pas. L'année scolaire n'était pas terminée. À 14 ans, il était foutu dehors, ce qui allégeait les classes. Et puis, ça augmentait un peu les gosses à la rue.
Je suis sorti de la primaire à 14 ans. Je ne pense pas à l'avenir.
Non. Ces jeunes restaient à la rue de 14 ans jusqu'à 18 ans, parce que personne ne les prenait. Pour aller dans un centre de SPA, il fallait avoir 18 ans.
Pour apprendre, il n'y avait pas de miracle.
Et les jeunes, ils venaient me voir. Et chaque fois, je disais, mais je ne suis pas le service de placement. Organisez-vous.
J'ai échoué mon BEP CAP, et après, moi, le chômage.
Ils ont créé le comité de jeunes chômeurs. Ils faisaient 12 km à pied, 2 heures du matin, pour avoir chaque jour ses premières petites annonces. Et à 5 heures du matin, ils allaient taper chez le jeune en disant « Oh, t'as une place là-bas, il faut que tu te présentes. » C'était en 68-69. On a aidé au démarrage d'une association de travail.
Il y a eu aussi des associations qui fonctionnent encore.
On a mis en place une association sportive. On était tout le temps à l'affût des problèmes qui se préoccupaient pour essayer, non pas d'apporter une réponse nous-mêmes, mais avec eux, de trouver une solution.
Alors, bien sûr, ce sont les années qui nous ont permis de porter un jugement sur la concentration, les conditions dans lesquelles on a relogé toute cette population. L'arrivée de ces logements a apporté un mieux-être.
Moi, je me souviens qu'avec les gens qui étaient voisins avec nous, j'avais une vie totalement familière.
En plus, la vie associative était relativement facile parce que les gens étaient presque tous de même origine, venaient des mêmes endroits.
Ce n'était pas le désert.
Je rentrais chez eux, je dormais chez eux, je mangeais chez eux, leurs enfants mangeaient chez moi.
Ça fait qu'il y avait une véritable communauté humaine qui s'est installée dans ces quartiers.
Il y avait des militants de l'habitat.
On vivait presque en autarcie.
Et ce n'est qu'après que les problèmes lourds se sont manifestés.
Ça a continué tant qu'il y a eu un petit peu, je dirais pas la prospérité en France, quoi, le plein emploi, etc. etc.
C'est la principale raison du départ de ces militants de l'habitat, ça a été les retards scolaires de leurs enfants.
Dans les années 70 à peu près. C'est vrai que les gens, après, se sont petit à petit, au début, refermés sur la tribu, mais après, refermés sur la famille, et puis presque refermés sur eux-mêmes, quoi. De plus en plus, on recule, quoi, dans l'enfermement.
Cette délinquance des jeunes a un front de contact où interpénètre.
On fait tout ce qui n'a pas été permis, en l'occurrence ce qui a été interdit.
Fréquemment que des véhicules sur des parkings se fassent simplement barboter leur plaque d'immatriculation.
Oui, bon, vous êtes jeune, qu'est-ce que vous refusez en somme, si tu veux?
Je vole une auto pour s'en servir un moment, pour aller à Aix, pour revenir.
Aussi bien dans sa mentalité à lui que effectivement dans le film et que c'est dans
on attendait de moi d'avoir que je représente quelque chose pour eux.
Je compte pas trop du travail pour faire ma vie là-bas.
Mais enfin, je veux dire, il y a les rails.
Les phénomènes de délinquance dont j'ai eu à prendre connaissance à cette époque, c'était le lot commun d'une jeunesse de ces quartiers populaires de la ville, avec ses difficultés.
Mais non !
Mais certainement beaucoup moins importantes dans les années 70 qu'elles ne sont devenues beaucoup plus tard. Au départ, je crois que c'était d'abord... Il y avait un goût d'aventure, un goût de jeu, parce que la bagnole qu'il piquait, c'était pas pour la vendre, c'était pour faire les cons avec. Quand il faisait un casque, quand il piquait, je sais pas quoi, une connerie, une sono, c'est parce que d'un seul coup, ils avaient envie de faire les cons avec une sono un soir dans la cave d'un immeuble. Et à la limite, on la retrouvait.
On était 5 copains. Je le fais pas.
La drogue, la délinquance, c'est des paramètres supplémentaires du mal-vivre.
Et puis l'arrivée... de la toxicomanie modifie complètement tout ça. C'est-à-dire, petit à petit, les comportements qui étaient des comportements de groupe deviennent des comportements individuels, qui deviennent beaucoup plus durs, beaucoup plus violents, comme ça, dans un espèce de besoin de résoudre immédiatement un besoin qui est celui de la toxicomanie.
On était 5 copains. On s'entendait plus. On s'est escroqué entre nous. Chacun est parti de son côté.
À l'époque, quand j'y étais, ce qui était c'était phénoménal, c'était le boucan que ça faisait. Le soir, ça faisait énormément de bruit, les gosses étaient dehors, ils étaient en train de gueuler, en train de faire les cons. Ça faisait réagir la population.
L'overdose, ça c'est la pire des choses.
Maintenant, ça fait beaucoup moins de bruit.
Ça peut être un désir de crier à la révolte, de se mettre à fumer. C'est pas pareil que de faire une manifestation. C'est pas pareil de manifester, de jeter des pierres contre un mur. Je veux dire, ce qu'on casse, là, c'est le mur qu'on casse, ou les voitures. Mais la drogue, c'est ta gueule que tu casses.
Avant les élections, la ville avait un plan de construction d'équipements sociaux et culturels.
Vous parlez, monsieur.
Lorsqu'il y a eu l'annonce de ce vaste programme, on a fait une concertation dans le quartier. On a eu 101 personnes qui y ont participé. Et c'est là où on a dit, on veut une maison de quartier qui soit ouverte à tous, qui ne soit pas gérée par la municipalité, mais qui soit co-gérée, qui permette aux associations de venir réaliser leurs propres activités. J'ai donc pris la direction de cette maison de quartier à ce moment-là.
Autour de la maison de quartier, s'est constitué un regroupement. Ce qui étaient les forces vives du quartier, tous les militants, associations de locataires, associations de parents d'élèves, associations de femmes.
Il y avait des choses uniques, des places pour des représentants du groupe des travailleurs sociaux. La concertation a permis de dégager des problèmes de base pour les faire monter.
Très, très houleux, ces réunions. Les gens avaient un petit peu ras-le-bol, que les choses s'éternisent, que ça ne se passe pas.
Et la revendication était mal acceptée par les élus. Moi, je me souviens avoir vu des élus assez importants là, qui venaient, qui avaient quitté la salle parce qu'ils s'étaient fait agresser. Et je suis allé le chercher parce que, à la porte, j'ai dit, mon Dieu, si tu n'es pas capable d'accepter la critique, tu n'es pas capable d'être nul. Alors tu reviens et tu vas t'expliquer avec les gens. On n'était pas complexés par rapport aux élus. On leur disait ce qu'on pensait aussi. Il y a eu quand même l'action par rapport à ces trois tours de 4 fois 40 étages qui devaient se construire à l'emplacement du carrefour actuel. Le parc du fond obscur, il faut le maintenir en espace vert parce qu'il était prévu là aussi des tours. Avec la venue de Carrefour, Il y a eu aussi la mise à disposition de la population de 2000 mètres carrés sociaux. C'est à ce moment-là qu'on a proposé la mise en place d'un centre culturel très polyvalent, qui soit très accessible pour les gens du quartier, et puis qui soit aussi très très ouvert.
C'est à la fois un studio d'enregistrement, un lieu de création audiovisuelle. Voilà dans quel esprit se développe ce lieu au niveau de son élaboration.
Bon, on a été quelques-uns à être cocufiés dans cette opération.
On change très vite les orientations de ce lieu.
Moi, je suis vice-président de cette association, le Centre culturel du Merlan. C'était un élu l'adjoint aux affaires culturelles, Paoli, qui était président.
Alors que c'était un lieu qui était complètement inscrit dans ce qu'était la réalité de ce quartier, on le transforme en un théâtre à l'italienne.
Un beau jour, on a appris qu'on ne faisait plus partie de cette association.
Ce lieu ouvert devient un lieu fermé.
Les objectifs originels ont été un peu faussés.
Ils ne fréquentent plus ce lieu que les gens qui viennent de Marseille, alors que la population du quartier n'a plus sa place dans ce lieu.
La concertation voulait autre chose. On a aidé quand même à la décentralisation d'équipements et nous avons aidé au démarrage du centre social flamand et du centre social fond vert. Et lorsqu'il y a eu ces équipements de créer un peu dans tous ces coins-là, c'était plus le conseil d'administration de la maison du quartier qui gérait tout ça parce qu'on voulait quand même que chacun garde son indépendance, on a démarré une association qu'on a appelée l'Association d'animation globale concertée. Cette animation globale concertée devait servir à coordonner toutes les actions de ces équipements, de toutes les associations. Aujourd'hui, les équipements Périclite et l'Association d'animation globale concertée se renforcent. Qu'est-ce qu'on a pu démarrer aussi? L'association des familles, la maison des familles et des associations. Et on a proposé un équipement particulier pour permettre à ces familles-là de faire leur fête à la maison des familles et des associations. Mais là aussi, il y a eu un peu des détournements parce que cette association-là, qui gère la maison des familles, est devenue un centre social comme Fonds Vert, comme Picon, comme... Mais ce n'était pas dans les objectifs du départ.
Quartier Nord.
Je pense que très vite, après l'installation de la ZUP numéro 1,
les habitants de ces quartiers,
on a assisté donc à la création des centres d'animation de quartier, des maisons de quartier,
changement à l'intérieur.
Et à tout un maillage comme ça de la population à travers ces différentes structures.
Ils se repliaient petit à petit et s'éloignaient.
Donc quand ces premiers équipements existaient, ils étaient véritablement le lieu d'expression.
Apprendre dès l'enfance à surmonter ses peurs.
Et puis petit à petit, il y a eu une prise en main.
Il ne faut pas les assister.
Par l'institution, par la municipalité, par le conseil général, y compris par les forces politiques.
Bref.
De ces différentes structures pour inscrire l'ensemble de ces besoins dans leur projet politique.
Ça commence à prendre.
Mais ça ne partait plus. Effectivement, de la population.
L'exercice relève de l'exploit.
Il y a tout un système étatisé qui était mis en place sur le quartier pour justement essayer d'apporter cette prise en compte sociale
de l'activité rime avec fatalité
de la population. Et on s'est rendu compte finalement que le type d'intervention qui était faite n'était pas vraiment ce qui correspondait à une réalité de terrain, à une réalité de vie, à une réalité quotidienne.
Mais on sait aussi aujourd'hui comment il faut faire.
Tous ceux qui sont en train de jouer là, eh ben, ils doivent recevoir des cadeaux. Le 14 juillet, rien que le 14 juillet. Parce
l'animation sociale ne répond pas aux carences d'une mauvaise urbanisation. Bon, c'est la constatation.
Elle, c'est ma cousine, c'est ma soeur.
Il y a une rupture véritable en ce qu'il en est de la création et de l'animation.
Enfin, oui.
Et à ma connaissance, l'animation n'a jamais mis en place une véritable politique de création, contrairement à ce que pouvaient croire les différentes édiles de l'époque.
Oui, on a été dépassés sur nos propres plannings.
D'une part, cette inscription dans la cité vient d'un désir profond. Moi, je fais partie de cette génération qui a voulu, qui a tenté de s'inscrire dans un lieu, donc en l'occurrence ici la cité, et d'avoir un lien le plus suivi possible, le plus quotidien possible, le plus profond possible avec les gens, les habitants de la cité. Je pense que c'est malgré la difficulté de la tâche, c'est des moments de bonheur pour moi.
Peindre, poser les petites tringlettes sur les meubles.
Moi, je crois qu'ici, c'est toujours une cocotte minute. Hein. On ne peut pas rien dire. Les gens sont pas malheureux d'habiter ici.
Donc on dit à chaque fois les banlieues sont au bord de l'explosion. Mais ça ne me plaît pas trop qu'on me rappelle cette chaque fois est-ce que vous êtes au bord de l'explosion. J'ai l'impression qu'on produit un peu d'exotisme.
J'arbitre un match de 3e, 4e place.
Si on interroge une partie de cette population, on verra que la mémoire n'est pas si absente. Maintenant, c'est par merci papa.
Je suis revenue sur le 14e.
Toutes les communautés vivant ici, dans ce pays, sont traversées plus ou moins par ce manque de reconnaissance. Mais pour qu'il y ait cette reconnaissance, je pense qu'il y ait quand même qu'il y ait plus de démocratie, moins de mépris. Là, il y a un problème.
Parler avec des jeunes contre ça, leur expliquer.
Je crois que les gens se rappellent très bien de ce qu'ils ont gagné, de l'école qu'ils ont véritablement réussi à faire construire, de l'équipement qu'ils ont réussi à faire ouvrir, de cette fête qu'ils ont organisée. Ça, ils s'en rappellent parce que ça part véritablement de leur demande, de ce qu'ils ont mis leurs enfants, de leur propre désir.
On n'a pas fait l'effort nécessaire au départ. Bon, est-ce que les pouvoirs publics pouvaient le faire? Je ne sais pas.
Ça fait qu'être pris pour une conne tout le temps.
Certains qui disent qu'il faut aller plus près de la base, ils s'en aperçoivent aujourd'hui. Parce qu'ils ont été trop loin de la base.
Mais ici, même, je suis enfant de la France.
On avait certains fonctionnaires et hauts fonctionnaires avec nous. On avait toujours des élus qui n'étaient pas d'accord parce que le type de travail social qu'on proposait, c'est un type de travail qui, à leur dire, conscientisait les gens, les rendait agressifs, révolutionnaires, conscients. Et ça ne plaisait pas trop à certains élus. Parce que quand on fait du clientélisme, ou qu'on aime bien avoir des gens autour de soi, Ça fait peur d'avoir des gens qui réagissent, qui rouspètent.
La sera, qui sera qui? Qui sommes les dettes?
Le vin, le ciel, la fumée, les jardins, les oiseaux,
les jardins, les oiseaux,
les arbres,
les champs, les arbres, les chemins, les collines. La défense, la nuit, les pierres.
Radio Mal Passé sur les 3-8 de la bande FM.